Merci, Monsieur le Président. C'est une joie et un honneur de me trouver devant vous cet après-midi pour présenter ces variations sur le salut entre Antiquité gréco-latine et christianisme, et je l'espère en faire l'occasion d'une discussion qui sera certainement enrichie par la longue série déployée depuis un an. Donc je précise que certains d'entre vous ont sous les yeux un exemplier qui reprend les principales citations de textes que je donnerai durant cette présentation pour vous permettre de le suivre aussi du regard.
Il m'en reste trois exemplaires. Voilà. Merci.
Allez-y.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Institut. Sauver, sauvegarder, préserver, ou bien sauver, renouveler, accomplir. L'ambiguïté fondamentale du verbe choisi pour ce cycle de conférences stimule et intrigue. Elle ouvre deux options que l'on pourrait résumer en simplifiant à l'extrême par cette alternative. D'un côté, un simple sauvetage, dernier acte posé comme un baroud d'honneur. De l'autre, l'espoir peut-être illusoire d'entraver la marche des choses grâce à un retournement victorieux qui aurait pour mot d'ordre la prophétie de l'Apocalypse. Voici que je fais toute chose nouvelle. J'en veux pour exemple l'attitude de saint Augustin lorsque les Vandales mettent Rome à sac. Il ne revêt pas le sac et la cendre, pétrifiés dans l'attente du cataclysme. Il s'assoit et écrit « Deux amours ont fait deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. » Quel rapport avec la question du salut, me direz-vous ? Tout simplement d'abord une réponse à l'alternative que j'ai posée en commençant. Sauver les meubles, c'est ne pas tenir compte du fait que l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu risque fort de conduire les hommes à leur perte. Aimer Dieu jusqu'au mépris de soi, c'est s'ouvrir au salut que Dieu veut pour l'homme en la personne d'un sauveur, le Verbe de Dieu fait chair. Deux cités, deux voies, deux formes de salut. Dès lors, ma communication vise à montrer les tentatives, les tâtonnements parfois, à travers lesquels les auteurs de la Grèce et de la Rome antique, puis les auteurs chrétiens, discernent les signes des temps, racontent, nomment et espèrent le salut, afin de répondre à la question « Que devons-nous faire ?» posée aux apôtres par les foules bigarrées de Jérusalem lors de la Pentecôte. Un examen rapide des points de contact entre les visions antiques et chrétiennes du salut fait apparaître de nombreux motifs communs. La condition mortelle, l'action des dieux ou d'un dieu dans l'histoire, l'urgence de la piété et du culte, les écueils de la richesse, la considération du bien mourir. Pour autant, il n'est pas certain que la notion de salut convienne identiquement aux cultures gréco-latines et chrétiennes dans leurs différentes expressions, histoire, tragédie, philosophie ou théologie. Est-ce que tu t'en fais la même idée que moi ? Cette question, adressée par Socrate à Glaucon au livre 10 de la République, pourrait être posée à propos du salut par les auteurs chrétiens aux auteurs grecs et latins et réciproquement par ces derniers aux auteurs chrétiens lorsque nous les lisons les uns à la lumière des autres. Impossible alors d'esquiver une autre question, celle de la novitas du christianisme et de l'assomption par lui de certains traits constitutifs de la vision gréco-latine du salut. Je vous propose donc de commencer par entendre quelques histoires de salut, avant de nous pencher sur le lexique de ces histoires et de considérer pour finir ce que pourrait être une histoire du salut. Comment la question du salut se pose-t-elle aux hommes ? Je dirais avant tout très concrètement. Le salut, c'est d'abord un cri, sauf qui peut. Les femmes et les enfants d'abord. L'actualité récente a donné à ce principe une résonance toute particulière. Lorsque sombra le Titanic, bien des situations se présentèrent. les musiciens qui, dit-on, jouèrent jusqu'à la fin, les passagers qui préférèrent sauter à l'eau, ceux qui en écartèrent d'autres pour monter à bord des canots de sauvetage, ceux, enfin, qui choisirent de vivre malgré tout et devinrent des témoins. Jusqu'où est-on prêt à aller pour sauver autrui ou se sauver soi-même ? Mais le salut, c'est aussi le bruit des coupes ou des verres qui s'entrechoquent. Santé, skol, prost, lechaim. On invoque le salut. On inspire à ce qui en semble le principal contenu, c'est-à-dire la santé, ou plus largement, comme en hébreu, la vie. Car santé et salut peuvent être confondus, comme le rappelait avec humour Mgr Battu dans son intervention du 10 janvier dernier. Et saint Augustin s'appuie lui aussi sur cette proximité lexicale dans le récit qu'il donne de son baptême différé. On lit ainsi au premier livre des Confessions. « Je t'en prie, mon Dieu, je voudrais savoir si cette décision de différer alors mon baptême m'a, pour mon bien, comme lâché les rênes du péché, car nous entendons résonner de toutes parts à nos oreilles, « Laisse-le faire, car il n'est pas encore baptisé. »« Laisse-le faire », sous-entendu, « Laisse-le faire toutes les bêtises qu'il veut. » Et pourtant, pour la santé du corps, nous ne disons pas « Laisse-le se blesser davantage, car il n'est pas encore guéri. » Combien donc eût-il mieux valu pour moi, conclut Augustin, d'être rapidement guéri, que le salut de mon âme, une fois reçu, fût assuré sous ton assurance à toi qui me l'aurais donné. On trinque donc au salut et on raconte le salut. N'est-ce pas le principe de bien des contes ? Le petit chaperon rouge, sauvé in extremis de la gueule du loup. Peau d'âne, arraché à un amour incestueux. Blanche-Neige, guérie par un baiser de la pomme empoisonnée. Dans cet esprit, je voudrais vous inviter à me suivre à travers quatre histoires empruntées à Hérodote, Sophocle et saint Augustin. L'histoire de Crésus, l'histoire d'Antigone, celle de Monique, mère d'Augustin, l'histoire enfin de deux amours qui ont fait deux cités. La première de ces histoires nous place devant un choix. Est-il préférable d'être riche comme Crésus ou bien sage comme Solon ? Tout laisse à penser qu'Hérodote a connu les tragédies de Sophocle et qu'il a pu s'en inspirer pour faire de Crésus un vrai héros tragique. Hérodote accomplit ainsi la double intention affirmée dans le prologue de ses histoires. Première intention, raconter les événements petits et grands avec l'objectivité de l'historien, c'est-à-dire en faisant état des interprétations divergentes d'un même événement. Deuxièmement, rendre compte du tragique inhérent à la condition humaine. Il était une fois donc un grand sage, Solon, en visite à la cour de Crésus, roi de Lydie. Ce dernier lui fait visiter son palais et ses innombrables richesses. S'attendant à ce que Solon y voie la preuve de son bonheur, Crésus lui demande, non sans une certaine candeur, « Selon toi, qui est le plus heureux des hommes ?» Et voici que Solon répond « Télos d'Athènes ». Stupeur de Crésus ! Un simple quidam lui volait la vedette à lui, Crésus, qui a tout pour être heureux ? Et pourquoi donc ? Parce qu'il a eu la chance d'avoir deux fils, de voir naître les enfants de ses enfants, et, ajoute Solon, parce qu'il a eu une belle fin de vie. Mort au combat glorieusement, Télos a été enseveli par les Athéniens la même où il était tombé, avec tous les honneurs et aux frais de la cité. Hérodote conclut sobrement. Ces paroles de Solon, je pense, ne firent pas plaisir à Crésus, ne l'ayant jugé digne d'aucune considération. Crésus le congédia, persuadé que c'était sottise de dédaigner les biens présents et d'inviter à voir la fin de toute chose. Après le départ de Solon, la vengeance divine frappa cruellement Crésus parce que, je suppose, il s'était cru le plus heureux des hommes. Ce premier épisode de l'histoire de Crésus livre deux enseignements de simple bon sens. Premier enseignement, l'incertitude de la marche du monde qui fait qu'un renversement complet est toujours possible. En conséquence, on ne saurait évaluer la qualité d'une existence avant qu'elle soit parvenue à son terme. Cela peut conduire à affirmer, paradoxalement, comme le fait Solon, que personne parmi les vivants n'est heureux. Il ne peut être considéré tel que post-mortem. Voilà pourquoi Solon conseille à Crésus de considérer la fin en toute chose, car, dit-il, nombreux sont ceux à qui le Dieu a laissé voir le bonheur et qu'il a renversé de fond en comble. En lieu et place du salut, donc, un renversement dont la brutalité ne peut que prendre les hommes au dépourvu. Et c'est exactement ce renversement de fortune qui attend Crésus dans la suite du récit d'Hérodote et qui touche également Créon à la fin d'Antigone. Je cite Hérodote, « La fortune à chaque instant vient abattre l'homme heureux, aussi bien que redresser le malheureux, et la constance qu'il désire, il n'est pas de devin capable de la garantir aux mortels. » Deuxième enseignement. Même en se plaçant au terme de la vie d'un homme pour le juger heureux ou non, il faut alors évaluer s'il a eu une belle fin de vie. Mourir de belle manière, voilà ce qui est déterminant. En sa fin tragique, Antigone, nous le verrons, meurt comme il faut. C'est-à-dire qu'elle vit jusqu'au bout l'observance des lois non écrites, sans laquelle se disloque l'unité de la cité, fondée sur l'amitié entre les vivants et les morts. Dans le récit d'Hérodote, c'est Crésus lui-même qui parvient à cette fin de vie déterminante. Alors que Sardes, capitale de la Lydie, est conquise par Cyrus le Grand, Crésus est fait prisonnier et conduit au supplice. Cyrus fit amonceler un grand bûcher sur lequel il fit monter Crésus, chargé de chaînes, et près de lui 14 jeunes Lydiens. Son intention était peut-être, en brûlant ses victimes, de sacrifier à quelques dieux les prémices du butin, ou bien il voulait accomplir un vœu, ou bien, ayant entendu dire que Crésus était pieux, il le fit monter sur le bûcher afin de savoir si une divinité le préserverait d'être brûlé vif. Notons qu'Hérodote formule trois hypothèses pour justifier le supplice de Crésus. Les deux premières sont conformes à la piété traditionnelle, offrir aux dieux les plus précieux objets du butin ou accomplir un vœu. La troisième est plus surprenante et plus cruelle, puisqu'il s'agit pour Cyrus de vérifier sur le vif l'efficacité de la piété de sa victime. Voilà pourquoi, lorsque Crésus, au milieu de ses gémissements, prononce un nom par trois fois, Cyrus demande à ses interprètes de le répéter. Mais ce n'est pas un dieu qu'implore Crésus, c'est Solon, le sage venu d'Athènes. Et l'oracle n'est autre que cette formule, « Personne parmi les vivants n'est heureux ». Considérablement troublé par cette parole et redoutant le châtiment divin, Cyrus ordonne d'éteindre le bûcher, mais sans succès. Une dernière péripétie se produit alors, en réponse à la prière que Crésus adresse à Apollon, un orage miraculeux éteint finalement le bûcher. Sauvé de la mort par un orage ex machina, Crésus a vécu dans sa chair ce que signifiaient les paroles de Solon. Il faut juger toutes choses d'après leur fin. Mais ce n'est pas tant sur le critère du bonheur, sujet du dialogue initial entre Crésus et Solon, que porte le discernement. C'est sur le critère de la sagesse, jointe à la piété. Contre toute attente, en effet, le roi réputé pour ses richesses est jugé pieux et sage par son ennemi. Il échappe à la mort honteuse qui aurait sanctionné son incapacité à entendre l'oracle de Delphes, selon lequel il devait détruire un grand empire. Car Crésus avait entendu ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il détruirait l'empire perse, alors qu'en réalité, il devait être lui-même l'auteur de la destruction de son propre empire. Se rappelant sur le bûcher les paroles de Solon, Crésus a invoqué Apollon en dernier recours, et par l'intervention du dieu, il a échappé à cette non-belle mort, littéralement, que refuse également Antigone. J'explore maintenant une deuxième alternative, être sage avec Créon ou fou avec Antigone. Les dernières paroles du Coryphée dans Antigone, « La sagesse est de loin la première des conditions du bonheur, il ne faut jamais commettre d'impiété envers les dieux », peuvent-elles résumer les prérequis du salut, c'est-à-dire la sagesse et l'absence d'impiété? Quand on lit les dernières pages de la tragédie de Sophocle, le sang et les larmes semblent l'emporter. Le spectateur apprend successivement de la bouche du messager le suicide d'Hémon, fils de Créon, celui d'Antigone, leurs noces sanglantes au creux du tombeau, le suicide enfin d'Eurydice, femme de Créon et mère d'Hémon. Comment s'étonner du fait que Créon comprenne enfin être le fou, lui qui pensait incarner l'ordre face à la folie d'Antigone? La justesse de la sentence d'Antigone a fini par se manifester au grand jour. Elle disait en effet « c'est peut-être bien un fou qui me taxe de folle ». Pourtant, serait-il juste de dire que rien n'est sauvé dans la pièce de Sophocle? Polynice, le frère d'Antigone, n'a-t-il pas reçu les honneurs dus aux défunts ? Antigone n'a-t-elle pas obéi aux lois non écrites, au mépris de celles édictées par Créon ? Mourir comme il faut, comme il se doit, n'est-ce pas une manière d'être sauvée ? Et puis, si Antigone, l'héroïne, accède à un salut, c'est aussi, par-delà, Antigone, la tragédie. Grâce à la médiation de l'œuvre de Sophocle, par sa représentation, porteuse, on le sait, d'une fonction sacrée, et par sa réception à travers les siècles, cette figure tragique accède à une forme de rédemption, acquise dans la sphère des lettres et des arts. De sorte que l'on pourrait, je crois, lui appliquer le mot que l'évangéliste Marc prête à Jésus dans l'épisode de l'onction à Béthanie. Commentant pour ses disciples le geste de celle qui répand sur sa tête un flacon de parfum de grand prix, il dit en effet « Laissez-la, pourquoi la tracassez-vous ? C'est une bonne œuvre qu'elle a accomplie sur moi. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé l'Évangile, au monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. » L'œuvre belle accomplie sur Jésus préfigure les soins apportés au cadavre du Christ au soir du Vendredi Saint. Elle est en même temps signe et annonce de sa résurrection glorieuse, l'onction sacerdotale, prophétique et royale du Messie. Une troisième option s'ouvre devant nous. Rebelle comme Antigone ou disciplinée comme Monique, que choisirions-nous ? De Sophocle à Saint-Augustin, le pas à franchir semble grand. Pourtant, la sage Monique, mère de l'évêque d'Hippone, ne serait-elle pas un double inversé d'Antigone la rebelle ? Voyons cela de plus près. Vous vous souvenez du crime d'Antigone, qui constitue en même temps le salut de Polynice, son frère, et plus encore de la cité de Thèbes, dont le nouveau roi Créon est incapable de promulguer des ordonnances justes. Je le rappelle devant vous, car le geste que pose l'héroïne de Sophocle est d'une pureté presque insoutenable. Avec en arrière-plan une colline brûlée de soleil, se détache d'abord une main qui saupoudre d'une fine poussière le corps putréfié livré aux vautours. Puis les contours de la cruche de bronze versant par trois fois les libations rituelles. Par ces gestes immémoriaux, Antigone incarne un premier impératif : laisser les vivants enterrer les morts. Elle seule donne le salut à la cité en écoutant une loi intérieure, non écrite, plutôt que l'ordonnance de Créon. Et ces lois non écrites ne sont pas celles de la justice, d'Ike ou de Zeus, mais celles qu'Antigone trouve inscrites profondément en elle, dans sa connaissance de la philia, de l'amitié. Pour saisir ce moment décisif, je vous lis ce bref dialogue entre Créon et Antigone. Créon, et pourtant tu as osé outrepasser mes lois. Et Antigone répond, non, bien sûr, Zeus ne m'a pas dit par proclamation de faire ce que j'ai fait. Et celle qui habite avec les dieux d'en bas dit qu'elle, la justice, n'a pas non plus défini chez les hommes des lois comme la mienne. À la suite de Karl Reinhardt, Jean l'Auxerrois éclaire le sens de ce texte. Dans la réponse d'Antigone, le démonstratif « ce que j'ai fait » ne reprend pas le « mes lois » de Créon, mais désigne l'acte de transgression qu'elle a commis. De sorte que Antigone affirme que son acte ne répond ni aux lois d'en haut, ni aux lois d'en bas, qu'elle n'a donc agi selon aucune loi statutaire, mais que sa conduite répond à des règles non écrites qui n'en sont que d'autant plus impérieuses. L'impératif qu'Antigone oppose à l'ordonnance de Créon, plus radical que les lois de la religion statutaire, se situe à la racine de la philia qui seule est capable d'unir entre eux les hommes de la cité. Et ce socle, c'est tout simplement, si l'on peut dire, la condition mortelle que les hommes ont en partage. Ici, le fait d'être mortel, je précise, n'est pas à prendre au tragique. C'est là une des lignes de partage entre la culture grecque et la culture chrétienne. Je cite Jean l'Auxerrois. Il ne s'agit pas seulement d'honorer les morts par la dignité de la sépulture, mais de faire communiquer le monde des morts et des vivants dans l'épreuve étrange et grecque de ce que signifie notre départ loin de ce monde, lequel n'a rien à voir avec le départ chrétien vers l'autre monde, ni avec l'idée de l'immortalité. Pour les Grecs, pour Antigone, la mort fait partie de la vie. Et les morts forment avec les vivants la communauté des mortels unie par la philia. Antigone ne dit pas autre chose quand elle déclare « Mon âme est déjà morte ». Elle va même plus loin en affirmant « Si je meurs avant l'heure, moi je considère que j'y gagne ». La mention du sauveur excepté, ce qui n'est pas rien, j'en conviens, on croirait presque entendre l'exclamation de Paul en Philippiens 1:21 « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain ». Il en découle une conception singulière du bien mourir, cette réalité que nous avons d'abord rencontrée chez Hérodote. Il ne s'agit pas pour Antigone d'avoir une belle mort, mais de mourir comme il faut ou comme il se doit. Et ainsi, de porter jusqu'à son incandescence ce qu'est l'effrayante exception des mortels. Faut-il incriminer ce mois de novembre où la chute des feuilles et le jour des défunts fêtés dans l'Église catholique peut verser dans les esprits un climat mélancolique ? Et voici que je me tourne vers une autre visiteuse de sépulture, Monique, la mère d'Augustin, figure marquante et ambivalente des confessions. Elle a coutume, raconte Augustin, de se rendre sur les tombes des martyrs pour honorer les défunts. Cette pratique qu'on appelle parentale confine, selon Ambroise, au paganisme. L'évêque de Milan s'en émeut et promulgue une ordonnance les interdisant. Vous voyez les points de contact avec Antigone. Et c'est là que se révèle l'obéissance de Monique. Dès qu'elle a connaissance de cette interdiction, elle transforme ses libations funéraires. Mais ne nous y trompons pas. La docilité de Monique n'est pas moins salutaire que la rébellion d'Antigone, bien qu'elle se situe sur un plan différent. Monique, en effet, personnifie un deuxième impératif, laisser les vivants rendre grâce pour les morts. Ainsi s'opère dans le texte d'Augustin la conversion du culte pour les défunts en action de grâce. Le sacrifice eucharistique, célébré à proximité des tombeaux, porte un double fruit de communion, l'intercession pour les morts, d'une part, et de l'autre, l'offrande aux pauvres du prix des libations. On lit ainsi au livre 6 des Confessions, au lieu d'un panier plein des fruits de la terre, elle apprenait à apporter au tombeau des martyrs un cœur rempli de vœux purifiés. Ainsi, elle pourrait, dans la mesure de ses moyens, faire des dons aux œuvres, et ce qu'elle célébrerait dorénavant, ce serait sa communion au corps du Seigneur, modèle par sa passion de l'immolation triomphale des martyrs. Quand vient la mort de Monique, Augustin entreprend d'assurer le salut de son âme, de l'âme de sa mère, en faisant célébrer à son intention le sacrifice eucharistique. Il exécute ainsi la demande de Monique que l'on fasse mémoire d'elle non sur un coin de terre, mais à l'autel. À l'approche de sa délivrance, écrit Augustin, elle ne se soucia guère de faire somptueusement recouvrir son corps ou de l'embaumer d'aromates. Aucune envie d'un monument de choix ni de sépulture dans son pays, aucune recommandation en ce sens, mais un seul vœu, que l'on fit mémoire d'elle à ton autel. Mourir comme il se doit, pour Monique, si l'on reprend le fil suivi chez Hérodote puis Sophocle, c'est entrer dans la joie de son maître, expression évangélique citée dans l'épisode de la contemplation d'Ostie, cette extase mystique vécue peu avant sa mort, conjointement par Monique et son fils. Mourir comme il se doit, c'est goûter la promesse de vie éternelle, soutenu par la communion des saints dans la célébration eucharistique. J'en arrive au deuxième temps de cet exposé qui sera consacré à la manière gréco-latine de nommer le salut. Dans la rhétorique classique, un des trois registres du discours est le genre judiciaire. Il fait la part belle à l'enquête, inquisitio, qui aborde le délit ou le crime par des questions élémentaires. Qui, quoi, au bénéfice de qui, par quels moyens, en vue de quoi. Il en va un petit peu de même pour nous cet après-midi. Cartographier le salut dans cette ample période qui va d'Hérodote à Saint-Augustin suppose de se poser au moins quelques-unes de ces questions. Je le ferai en examinant maintenant la manière dont on nomme le salut en grec et en latin, classique ou chrétien pour ce dernier. Le grec ancien d'abord. Il connaît l'adjectif « saos », « saint et sauve », et le verbe « sozo », « sauver » ou « conserver », ainsi que l'adjectif et substantif « soter », « sauveur », « libérateur ». Par exemple, la cinquième olympique de Pindare s'achève par une prière demandant à Zeus sa protection pour le vainqueur. Ici, un certain Psomis, originaire de Camarine et éleveur de chevaux. Zeus sauveur, toi qui domines les nuées, je viens te supplier au son des flûtes lydiennes pour te demander d'embellir cette cité par une floraison de braves qui l'illustrent et de te conduire, toi, vainqueur olympique, dans la jouissance de tes chevaux chers à Poséidon, à une vieillesse qui plaise à ton cœur, entouré de tes fils. Donc Zeus est ici qualifié de sauveur, sauter, non seulement parce qu'il a donné la victoire, mais aussi parce qu'il peut accorder sa protection à une cité, Camarine, qui a besoin de reprendre vie et de se repeupler. Dans l'Agamemnon d'Eschyle, c'est Apollon qui reçoit l'épithète sauter, associé à l'adjectif paionios, guérisseur. À présent, sois notre sauveur et notre guérisseur, Seigneur Apollon. On signera enfin l'adjectif féminin soteira, libératrice, qui sert surtout d'épithète au nom de certaines déesses, par exemple Athéna ou Artémis. En latin classique, le champ lexical du salut s'ordonne autour de deux termes. D'un côté, l'adjectif salvus, qui signifie entier, intact ou sauf, et de l'autre, le substantif salus, qui désigne à la fois la préservation du danger ou la délivrance, et la santé ou la guérison. Prenons deux exemples dans la littérature latine pour voir ce que recouvre très concrètement la promesse de salut. Eh bien, elle est souvent résumée par une série d'adjectifs dont l'ordre peut varier, qui sont « préservé », « de retour » et « victorieux ». Donc on a trois critères pour définir le salut, la santé, le retour et la victoire. Ainsi, on peut lire dans les actes des frères Arval une prière adressée à Jupiter à l'occasion du départ de l'empereur Trajan pour la Dacie. Jupiter très bon, très grand, nous te prions, nous t'implorons et t'adjurons pour que tu ramènes l'empereur César de façon bonne et heureuse, préservé et victorieux, que dans les entreprises qu'il conduit maintenant, tu le gardes dans l'état où il se trouve, ou encore meilleur, et que tu le ramènes, préservé et victorieux, dans la ville de Rome. Le retour, la sauvegarde et la victoire. On va retrouver cet adjectif incolumis, préservé, sous la plume d'Apulée, qui est un auteur natif de Madore, qui se trouve être la ville où saint Augustin a fait ses études secondaires. Dans ses Métamorphoses, l'épisode de l'enlèvement de Charité fait entendre la prière de la jeune captive en fuite. Elle invoque les dieux, la fortune, et même, ce qui est plus surprenant, l'âne, en réalité Lucius métamorphosé, qui l'emporte sur son dos. C'est une prière qui s'apparente au genre littéraire du vœu de départ. Vous, Dieu d'en haut, dans les périls extrêmes, portez-moi enfin assistance, et toi, fortune trop insensible, renonce maintenant à ta fureur, et toi, elle s'adresse à l'âne, gardien de ma liberté et de mon salut, si tu me ramènes chez moi saine et sauve, et que tu me rends à mes parents et à mon beau fiancé, quelle reconnaissance j'aurai pour toi, quels honneurs je te rendrai, et, c'est la vraie carotte pour un âne, quel festin je t'offrirai. En latin chrétien, maintenant, l'adjectif salvus prend le sens de sauver du méchant ou du mal par un sauveur. Le verbe salvare est de création tardive, puisque la langue classique emploie les verbes servare ou conservare, comme dans la prière pour l'empereur Trajan citée à l'instant. Et de ce verbe salvare dérivent les termes salvator, salvatio, salvificare. Ce qui est frappant, c'est de remarquer que pour saint Augustin, qui nous accompagne cet après-midi, la chose fait le mot. Le Sauveur, Jésus-Christ, selon lui, apporte avec sa personne le nom salvator et le verbe salvare. Lisons pour nous en convaincre un bref passage du sermon 299. Le Christ Jésus, c'est-à-dire le Christ salvator, c'est en effet le nom latin de Jésus. Que les grammairiens ne cherchent pas en quoi il est latin, mais que les chrétiens cherchent combien il est vrai. Salus, il est vrai, est un mot latin. Mais salvare et salvator ne furent pas des mots latins avant la venue du Sauveur. C'est lorsque ce dernier vint chez les latins que ces mots passèrent dans la langue latine. Voilà qui est clair et ferme. Ces précisions lexicale faite, tournons-nous maintenant vers ce que j'ai appelé la manifestation du salut dans l'histoire. Le salut, est-ce que tu t'en fais la même idée que moi ? Vous vous souvenez de cette question que j'ai posée en commençant, en appliquant à notre thème une question de Socrate qui intervient en réalité à propos de la rétribution et de l'immortalité de l'âme. Tout est parti d'une demande adressée par Socrate à Céphale, le plus âgé des convives dans la République. Voilà cette question. Comment, parvenu à cette étape de la vie, comprends-tu ce que les poètes appellent le seuil de la vieillesse ? Est-ce un moment difficile de la vie ? Qu'en dirais-tu ? Puis la conversation se porte sur la richesse. Céphale, demande Socrate, est-il un heureux vieillard parce qu'il possède de grands biens ? N'y a-t-il pas un bien plus grand que la richesse pour justifier le bonheur ? Par exemple, les récompenses les plus importantes de la vertu ou les prix qui y sont rattachés, en particulier l'immortalité de l'âme. Socrate appuie cette affirmation en faisant appel à une définition du bien et du mal. Il y a quelque chose que tu appelles le bien et quelque chose que tu appelles le mal. Mais est-ce que tu t'en fais la même idée que moi ? Que tout ce qui perd et détruit, c'est le mal, et que ce qui sauve et qui vient en aide, c'est le bien. Notons à ce propos que le second des deux verbes employés pour définir le bien, ophélo, désigne dans Antigone le geste de piété que l'héroïne doit poser vis-à-vis de son frère Polynice, c'est-à-dire aider les morts, venir au secours des morts. La définition de Socrate met en parallèle deux binômes, le mal et le bien d'un côté, la destruction et le salut de l'autre. Que penser de cette association ? Chacun conviendra que le salut est un bien et la perdition un mal. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de plus profond dans le propos de Platon ? On peut l'imaginer. Cela suppose de revenir à la fameuse question « T'en fais-tu la même idée que moi ?» Bien, l'idée de salut, ici, est commandée par la visée de bien, du bien, et ce bien, c'est l'immortalité de l'âme, ou plus précisément, le fait pour l'âme de se tenir ramassée en elle-même, selon la formule du Phédon. Alors maintenant, les auteurs bibliques et les pères de l'Église vont nous faire tourner le regard vers la figure d'un sauveur. Le nom Yoshua, porté par Josué, qui fait entrer le peuple hébreu en terre promise, et par Jésus, Messie et Sauveur, signifie en hébreu « Dieu sauve ». Pour Augustin, ce Dieu sauveur est à la fois le bien suprême et le seul bien qui réponde à sa quête de salut. Pour moi, dit-il, le bien, c'est adhérer à Dieu, en citant un psaume. Comment cela peut-il se faire ? C'est parce que Dieu est le souverain bien, immuable et éternel, qu'il est toujours possible de se convertir, c'est-à-dire de se tourner à nouveau vers lui, qui, je cite le prologue des Confessions, nous a créés orientés vers lui. Et Dieu est le bien le plus élevé en ce qu'il est l'être même, cet idipsum à la contemplation duquel Augustin parvient un bref instant dans le livre 7 des Confessions. Quand Augustin raconte ce qu'on a appelé une tentative d'extase plotinienne, il fait dépendre le salut de la définition de Dieu comme celui qui est l'être avec un E majuscule. L'être véritable, écrit-il, est celui qui demeure éternellement. Et pour moi, mon bien, c'est de m'attacher à Dieu, parce que si je ne demeure en lui, je ne peux demeurer en moi. Tandis que lui, tout en demeurant en lui-même, renouvelle toute chose. Cette révélation de Dieu comme l'être même conduit à la découverte que le salut vient dans et par une personne, le Verbe fait chair, dont le nom signifie « Dieu sauve » et dont l'avènement actualise la révélation biblique annoncée par les prophètes et chantée dans les psaumes « Notre salut est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre ». Et nous avons vu de quelle manière Augustin tient à acter que le nom même de Jésus, le seul, dit l'Écriture, par lequel les hommes peuvent être sauvés, crée véritablement le mot « sauveur » dans la langue latine, abréviation du verbe dans la langue de son temps, en quelque sorte. Je parlais en commençant de la question de la novitas du Christ. L'incarnation ne serait-elle pas la charnière du salut, selon une formule de Tertullien en latin « caro, cardo, salutis ». En apportant sa propre personne annoncée par avance écrit un autre père de l'Église, Irénée de Lyon, le Seigneur a apporté toute nouveauté. Qu'est-ce que cette nouveauté ? Eh bien, c'est l'union dans sa personne de la nature humaine et de la nature divine, comme le résume Jean Danielou. Selon la foi chrétienne en la valeur unique, irrévocable de l'événement de l'incarnation, le Christ est entré une fois pour toutes dans le sein des saints, c'est-à-dire dans la sphère trinitaire par son ascension. Rien ne pourra plus séparer la nature humaine de la nature divine, l'humanité est substantiellement sauvée. C'est cela la novitas du Christ, rien ne pourra plus séparer la nature humaine de la nature divine. Et avec l'incarnation, la résurrection est par excellence un commencement sans fin. Selon Joseph Ratzinger, la preuve en est donnée très concrètement par le renoncement au Shabbat et son remplacement chez les chrétiens par le premier jour de la semaine. Seul un événement, en effet, écrit-il, qui se serait imprimé dans les âmes avec une force extraordinaire, pouvait susciter un changement aussi central dans la culture religieuse de la semaine. De là émerge la figure du dimanche comme mémorial du salut définitivement acquis, bien qu'en attente de manifestations plénières. Je cite un passage de l'Office syriaque d'Antioche. Quand nous méditons, ô Christ, les merveilles qui furent accomplies en ce jour du dimanche de ta sainte résurrection, nous disons « Béni est le jour du dimanche, car c'est en lui que fut le commencement de la création, le salut du monde et le renouvellement du genre humain. » Ici se donne à lire, j'insiste, la valeur du salut comme événement, l'entrée de l'éternité dans le temps de l'histoire sous l'espèce d'un commencement sans fin. Augustin médite dans la Cité de Dieu sur cette réalité qui est un peu choquante pour la raison humaine, un commencement sans fin. L'histoire sainte, écrit Danielou, est faite de commencements absolus qui restent ensuite éternellement acquis. Et cela est contraire à la conception spontanée de l'esprit humain. La notion de réalité qui commence et ne finisse pas est un scandale pour la raison humaine, insiste-t-il, et apparaît comme spécifiquement chrétienne. Telles sont, pour Augustin, les grandes décisions créatrices de Dieu qui constituent l'histoire, la création du monde, la création de l'homme, l'alliance avec Abraham, la résurrection de Jésus-Christ, la vie éternelle. On le voit, il ne s'agit pas tant de faire son salut que de le recevoir comme un don surabondant. C'est l'intuition fondamentale de Joseph Ratzinger qui fit partie, on s'en souvient, de cette académie. La surabondance est le véritable principe de l'histoire du salut. Celle-ci n'est finalement rien d'autre que le fait vraiment stupéfiant d'un Dieu qui, dans son incompréhensible prodigalité, non seulement dépense un univers, mais se prodigue lui-même pour conduire au salut ce grain de poussière qu'est l'homme. La surabondance est donc, répétons-le, la véritable définition de l'histoire du salut. Ce qui fait que pour accueillir le salut, l'attitude requise est celle du veilleur. Car le Christ viendra dans sa gloire comme un voleur, selon l'annonce de l'Apocalypse. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille. Selon une image extrêmement courante dans l'Écriture et la tradition, veiller, c'est être prêt à se lever dans l'attitude caractéristique de la résurrection. C'est peut-être pour ça qu'on m'a mise debout cet après-midi. Augustin fait résonner cet appel dans un de ses sermons. « Homme, éveille-toi, car pour toi, Dieu s'est fait homme. Ô toi qui dors, lève-toi, et tu te relèveras d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Et avec une constance qui pourrait être étonnée, Augustin exhorte dans la Cité de Dieu le peuple romain exactement dans les mêmes termes. « Aspire plutôt à cela. » Rejoindre l'Église. Ô romaine nature si digne d'éloge, ô lignée des Régulus, des Scaevola, des Scipion, des Fabricius, oui, aspire plutôt à ces biens-là, les commandements du vrai Dieu, ses miracles, ses grâces, ses bienfaits, et sache faire la différence avec l'imposture si dégradante et la si fallacieuse malfaisance des démons. Réveille-toi, comme tu le fis en tel ou tel, de cela, la parfaite vertu et ce qu'ils ont souffert pour la vraie foi font notre gloire. Par leur sang, nous avons enfanté cette patrie. Dans ces derniers mots, Augustin cite un court extrait du livre 11 de l'Énéide de Virgile, où il est justement question de confier à la terre les corps des compagnons laissés sans sépulture. Ce qui nous ramène à Sophocle et au motif des morts privés des libations rituelles comme obstacle au salut. Je conclus. Qu'est-ce qui est à sauver dans l'homme, dans la civilisation qui est la nôtre ? Sur quoi les gardiens du salut doivent-ils veiller, s'endormir, ni somnoler ? Je suggère 4 objets à emporter avec soi avant le naufrage. En premier lieu, la possibilité de continuer à lire et à se laisser lire par Hérodote, Sophocle, Platon, Augustin. C'est un détour salutaire, la sauvegarde des humanités classiques s'opérant à travers le renouvellement de l'interprétation dans la tradition, avec dans le renouvellement pardon, de l'interprétation dans la tradition par analogie avec la pratique du ridouche. Deuxième objet, la recherche de l'unité pour la cité. Nous avons vu avec Antigone que cette unité repose sur une compréhension extensive de la filia qui ne fait pas exception des morts. Créon se croit le garant de l'unité de Thèbes, il en est le destructeur. Antigone fait plus que préserver cette unité, elle la sauve en suivant une loi intérieure qui la conduit en toute hâte bien au-delà des exigences de la religion statutaire. Une anecdote encore, si vous me permettez. Il y a peu, l'Ocean Viking accostait, ou débarquait, c'est selon, sur les côtes françaises. Le commentaire qui m'a le plus marqué invoquait contre toute attente Sophocle. « Les choses ne sont pas si simples, disait un intervenant, car je peux adopter la posture flatteuse d'Antigone, ou bien le rôle peu enviable de Créon. Et puis on voit un ministre de l'Intérieur à contre-emploi, fier d'être Antigone quand il devrait assumer d'être Créon. Sophocle à la rescousse sur les chaînes d'information. Vertige. Qui sauver ? Au nom de quelle loi écrite ou non écrite ? Mais aussi, est-ce légitime ou bien faire preuve de récupération que de se référer ainsi au héros d'Antigone ? Troisième objet, en forme d'impératif. Laisser les vivants enterrer les morts, au lieu de les emmurer vivants, à l'image d'Antigone. La guerre sanitaire contre le Covid a montré qu'une action totale entreprise sur tous les fronts risquait fort de devenir totalitaire, la langue de Sophocle dirait tyrannique. Je cite M. Delvolvé dans une tribune de juin 2020, « L'interdiction a ainsi été érigée en règle et sa restriction en exception ». Bien, parmi les nombreuses atteintes à la liberté que l'on peut constater, celle d'empêcher les vivants de venir en aide aux mourants et d'enterrer leurs morts selon la justice et la loi non écrite a sans doute été une des plus incompréhensibles, voire inacceptables. Quatrième et dernier objet, en guise de viatique, l'actualité de la proposition chrétienne. Récemment réactivée par Pierre Manant, la proposition chrétienne met en avant à la fois l'initiative souveraine de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Cette tension entre liberté et grâce, saint Augustin n'a cessé de l'explorer. Et c'est tout simplement l'amour qui est au cœur de sa réponse. Si Dieu a créé l'homme à son image, c'est pour qu'il soit libre de répondre à son amour, car on ne saurait forcer quiconque à aimer. Augustin prend également acte de l'impuissance de la volonté, entravée par l'orgueil et la convoitise, à commencer par la sienne propre, lui qui mit si longtemps à revenir vers Dieu. Séro t'es amaoui, bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si neuve, bien tard je t'ai aimé. En s'appuyant sur une affirmation de saint Paul, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Augustin entrevoit une issue. Ce que l'on est impuissant à vouloir, on peut l'aimer, en se laissant attirer vers l'objet désiré par le poids de cet amour. Pondus meum amor meus, mon poids, ou encore mon centre de gravité, c'est mon amour, un amour qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. Il y a là, bel et bien, le principe d'une rédemption. Non seulement la libération de la volonté, mais son assomption par l'amour. Redisons-le, ce que l'homme ne peut vouloir, il peut l'aimer. C'est là que réside l'antipélagianisme d'Augustin. Il ne s'agit pas de vouloir ou de courir, mais que Dieu fasse miséricorde. Considérer cette proposition chrétienne pour se laisser la liberté d'y consentir, voilà un défi à la mesure de ce que rencontre notre monde en attente de salut. Je vous remercie.
Eh bien, mille merci. Merci d'avoir tenu dans les temps et puis merci de ce contenu de votre exposé qui va vraiment, me semble-t-il, au plus haut ou au plus profond, suivant la façon dont on réagit. Nous avons déjà deux questions, la première étant celle de Chantal Delsol.
Merci, Monsieur le Président. Merci pour ce bel exposé. Je voudrais vous poser une question et juste une remarque en deuxième lieu. J'aurais voulu savoir ce que vous pensez de cette appellation qui est conférée toujours au roi hellénistique. J'entends par là les diadoques, en fait, et leurs successeurs, le sauter. On peut comprendre que le nom sauveur en politique, on peut le comprendre si on veut bien croire que toute société historique est toujours menacée. Pourtant, on se rend compte que dans l'histoire, l'appel au sauveur n'est pas forcément lié à une menace réelle. Et inversement, par exemple, les petits pays d'Europe centrale qui sont constamment menacés de disparaître, Dixit, Kundera, ne cherchent jamais un sauveur. On peut apercevoir cette recherche d'un sauveur un peu en Roumanie encore. Il faut croire que lorsqu'on parle de sauter, depuis les origines, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus substantiel. Et peut-être c'est ainsi qu'on pourrait expliquer le sauter hellénistique. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Par ailleurs, juste une petite remarque, la quête du bonheur ne recoupe pas vraiment la quête du salut. Juste un exemple, Charles Péguy, qui clairement ne doutait pas du salut, je ne pense pas, écrivait, je cite, « Le plus grand secret, mon ami, le plus grand secret est celui-ci, on n'est pas heureux. » Je vous remercie.
Deux questions qui vont dans deux directions assez différentes. Je ne suis pas certaine de pouvoir répondre à votre première question sur ce que recouvre le sauveur dans l'époque hellénistique, notamment en lien avec la politique. C'est une question que je ne connais pas, donc je ne voudrais pas y répondre de manière imprécise ou imparfaite. Et c'est une des dimensions que je n'ai pas forcément creusée pour vous présenter cet exposé, la dimension politique du salut, même si j'ai fait référence à la figure du roi Crésus, mais qui est une figure, on l'a bien compris, un petit peu mythologique, embellie et mise par Hérodote aux besoins de son récit. Alors, la quête du bonheur n'est pas la quête du salut. Effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner cette distinction, et la phrase de Péguy que vous citez est éclairante, et puis on peut vraiment en peser toute la force. Finalement, ce sont quand même deux questions qui viennent de manière concomitante. Parce que si je prends des références qui me sont plus familières, dans le psautier, on trouve ce verset qui dit « Qui nous fera voir le bonheur ?» Donc, la question de la recherche du salut commence peut-être par la question de la recherche du bonheur. Et je pense qu'on pourrait peut-être établir cette hiérarchie entre les deux, une question du bonheur peut-être plus universelle, plus largement partagée, et la question du salut qui viendrait comme une réponse possible à la quête du bonheur. Je ne sais pas si ça peut rencontrer votre assentiment.
Merci beaucoup.
Xavier Darcos.
Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame, de cet exposé. Je voudrais revenir une seconde sur ce que vous avez dit à propos des Latins, et notamment à propos du Salvator. À partir du milieu du 1er siècle, la plupart des intellectuels et des poètes aussi se sont posé la question, d'abord, la première question, quelle traduction pouvait-on donner du mot grec « sauter » Et dans le De Natura Deorum, dans De Divi Natione, Cicéron explique qu'il n'y a pas d'équivalent en latin. Et il cherche des périphrases qui lui permettent de trouver un mot qui pourrait traduire le sauter grec. Et il ne pouvait pas non plus utiliser salus, puisque les latins le rattachaient à juste titre à l'étymologie du grec holos. Salus, c'est être tout entier, tout le temps soi-même. Et donc, ça ramenait profondément au corps. Pourquoi y avait-il cette question ? Parce que dans le même moment, le polythéisme commençait à fléchir dans les mentalités au profit de ce qu'on appelait la vis divina. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de force divine qui peut-être pouvait apporter aux hommes autrement que par le sacrifice d'un mouton ou par des prières formelles, autrement que par la religion extrêmement institutionnelle du monde romain, on pouvait peut-être y avoir un contact personnel. Alors il y a un texte extrêmement célèbre que vous connaissez sans doute, que vous n'avez pas cité, mais que vous avez forcément en tête, c'est le Carmen 76 de Catulle, qui porte exactement sur cette question. Au fond, Catulle s'adresse à un dieu, d'ailleurs un dieu au singulier, et lui dit « J'ai eu une vie pieuse, j'ai rempli mes devoirs, je suis actuellement dans un état de souffrance lié à une passion qui m'abîme, et donc je vous demande, au nom de la piété qui fut la mienne, de me donner le salut. » Et il y a une formule extrêmement célèbre, « Una salus haec est ». Il n'y a que vous, Dieu, qui êtes porteur du salut. Et donc, il me semble que cette question du flottement des mentalités, je dirais aux alentours de 50 avant Jésus-Christ, est une question qui aurait pu être ici évoquée à un moment ou à un autre entre les deux citations des Arval ou des Métamorphoses qui sont un peu loin de cette mentalité. Est-ce que je voudrais avoir votre réaction à ce sujet ?
Je vous remercie beaucoup parce que j'apprends beaucoup en vous écoutant. Je n'avais pas en tête le Carmen 76 de Catulle. Et effectivement, le choix que j'ai fait de raccourcir à l'extrême la partie lexicale et la partie consacrée aux termes employés pour le salut dans l'Antiquité grecque et latine fait qu'il y a un effet de juxtaposition entre des textes qui ne laissent pas voir cette période de transition dont vous parlez, où il y a comme un flottement. Et c'est vrai que la citation que je donne de saint Augustin, elle est aussi extrêmement massive, on va dire, et donc ça masque cette évolution historique qui est particulièrement intéressante, et y compris, je vous remercie, dans le fil de mon exposé, qui est d'essayer de montrer cette continuité qu'il y a depuis l'Antiquité grecque jusqu'au début du christianisme. On ne saurait les opposer. Il y a vraiment une quête qui se poursuit, qui se déroule, et qui s'accompagne d'un travail sur la manière de nommer le salut et de nommer le contenu de ce salut. Qu'est-ce qu'on en attend ?
Justement, parce qu'en l'occurrence, en plus, il ne s'agit pas seulement d'un mot. Il s'agit de demander cette réalité spirituelle qui est « odi redite hoc mi proprietate mea ». Dieu, donnez-moi cela, puisque j'ai manifesté ma piété. J'ai été pieux, oui. J'ai droit au salut. C'est complètement
c'est une autre logique.
Exorbitant oui. De tout le monde antique.
Mais je vous remercie de ce point que vous soulevez, parce que ça rejoint une question qui est intéressante dans cette époque, c'est le passage de la prière d'O ou d'Es. Donc je donne pour que tu donnes, dit-on au Dieu, et puis da ut dem, donne-moi pour que je donne, donc toujours l'idée d'un échange de dons, et le salut peut faire partie de cet échange. Et chez mon cher saint Augustin, la question se transforme encore et devient peut-être encore plus audacieuse, puisqu'Augustin dit à Dieu da quod offeram tibi, il dit donne-moi de quoi te faire offrande. Et quand il dit dans cette formule célèbre « da quod iubes et iube quod vis », donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux, c'est un appel à la libéralité divine qui est d'une insolence extraordinaire et qui justifie que Dieu peut tout demander et l'homme peut tout offrir, puisque c'est Dieu qui donne cela même que l'homme va offrir.
Merci. Georges Rissoutou.
Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup, Madame, pour votre exposé. Je ne suis pas du tout dans mon domaine, donc je risque de dire des horreurs. Mais il me semble que pour ma génération, voix de vieillard, bien entendu, disons dans les années 60, on vous aurait posé la question que je vais vous poser, qui n'est peut-être pas totalement nulle. J'ai cru comprendre en vous écoutant que d'une certaine façon, dans le monde antique, le salut, même lorsqu'il s'agit d'une personne, d'un individu, se conçoit dans un cadre collectif, la famille, la cité, etc. Alors que peut-être que l'apport pour les contemporains le plus original du christianisme était le salut personnel, dans le sens personnel. Cela dit, c'est une dichotomie beaucoup trop simple, parce que la discussion salut personnel ou salut de l'humanité, salut chrétien, donc dans l'au-delà, enfin salut éternel, bon, s'oppose également dans le cadre des religions chrétiennes. Et cette question, et j'aimerais avoir votre sentiment sur ce point, ma question, elle est devenue tout à fait cruciale pour certains milieux chrétiens, en tout cas catholiques au minimum, face aux grandes idéologies collectives. Communisme, c'est une, aussi, si on veut, une idéologie du salut collectif. L'humanité sauvée de la guerre des classes, dans un État nouveau, etc. Bon, bien entendu, sur un plan tout à fait différent. Mais, il y a eu des contacts. Si vous prenez un mouvement comme Esprit, par exemple, ou peut-être encore plus loin, les théologiens de la libération plus tard, je citerai une formule de Bergamín, qui est un penseur espagnol proche d'Esprit, et qui a dû formuler ça juste avant la guerre ou pendant la dernière guerre, à propos de la collaboration, ce qui avait un sens pour la République espagnole, bien entendu, entre catholiques et, spécifiquement catholiques en ce cas, et communistes. Et Bergamín avait une formule, nous pouvons collaborer avec les communistes, lui était catholique, nous pouvons collaborer avec les communistes jusqu'à la tombe, mais pas au-delà. Ce qui est à la fois une semi-plaisanterie, en même temps peut-être quelque chose de plus profond. La théologie de la libération a poussé ça au-delà, puisque j'entendais dire dans les années 60, dans les milieux catholiques, que ce n'était pas l'individu seul dont le salut personnel importait, c'était celui de l'humanité, c'était ça le vrai sens de la théologie chrétienne. J'aimerais savoir si cette réflexion vous inspire quelque chose autrement que d'autre que le sens de totale nullité. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors là, je suis un peu... j'aimerais avoir deux visages, parce que pour vous regarder et regarder de l'autre côté, et ne pas m'éloigner trop du micro. Mais...
Pardonnez-moi, madame, parler en face du micro. C'est essentiel, ça n'entend rien.
Très bien. Alors, je me repositionne. Merci beaucoup pour votre question. Je crois qu'elle a quelques points de contact, peut-être, avec la question de Madame Del Sol, qui était posée en commençant, c'est-à-dire cette dimension politique du salut que, là encore, je n'ai pas cherché à aborder dans cet exposé. Mais je crois très intéressant de relever, comme vous le faites, les points de contact, cette fois-ci, non plus entre Antiquité et christianisme, christianisme naissant, mais les points de contact entre des idéologies comme l'idéologie communiste, donc pour un salut collectif, et ce qui a pu être observé dans, à partir des théologies de la libération. Que dire là-dessus ? Je ne sais pas trop comment compléter tellement ce que vous avez dit. Cela me semble juste, mais c'est un petit peu le problème que pose Augustin dans La Cité de Dieu, il me semble. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse revenir à cette question des deux cités. Et ces deux cités, finalement, elles ne sont pas l'une succédant à l'autre, mais comme le bon grain et l'ivraie, elles croissent ensemble. Et la cité céleste commence à se développer et à croître en même temps et de façon concomitante, étroitement liée avec la cité terrestre. Donc je pense que ce serait une partie de ma réponse de placer cette quête du salut d'un point de vue de la cité de Dieu et du point de vue de la cité des hommes de manière étroitement entremêlée, ce qui fait qu'il faut attendre finalement après la tombe pour pouvoir discerner ce qui a été vraiment porteur de salut.
Merci. Jacques de la Rosière.
Oui, j'ai été très intéressé par votre exposé qui est très riche et qui est soutenu par toute une série de citations qui donnent à penser. Je vais résumer ma pensée et vous demander si vous avez quelques remarques à faire. Ce qui est nouveau dans le salut chrétien par rapport à beaucoup de religions qui ont en elles la notion de salut. Mais ce qui est nouveau, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est Dieu, mais qui est aussi homme, et qui réconcilie donc la nature humaine et la nature divine, ce qui est fondamentalement nouveau dans l'apport de la religion chrétienne. Alors, la question que j'ai est la suivante. Le salut n'est pas assuré pour autant. Ce n'est pas parce que dans l'homme, il y a une aspiration divine qui est la marque de la nature divine de chaque individu, qu'il est sauvé pour autant. Il n'est sauvé que s'il veut être sauvé. Et les théologiens se sont beaucoup penchés sur cette question, saint Thomas en particulier. Parce que si vous dissociez trop fortement la nature humaine et la nature divine, vous avez deux entités qui communiquent pas vraiment. Et en général, c'est la nature humaine qui l'emporte. Si, en revanche, dans une interprétation plus raisonnable et plus compréhensive de saint Thomas, on considère que les deux natures vivent ensemble et ne sont pas séparées, à ce moment-là, cette osmose fait que l'aller vers le salut est plus plausible. Alors je voulais vous demander ça, vous n'avez pas cité cette partie de la théologie, mais qui, à mon avis, est fondamentale pour comprendre la notion de salut. Merci.
Merci beaucoup. Donc je vois que vous êtes reparti de cet événement absolument sans précédent de l'incarnation, donc d'un Dieu qui se fait homme, et de l'union dans la personne du Christ, de Jésus-Christ, de la nature divine et de la nature humaine, et ce que les théologiens ou les dogmaticiens ont appelé l'union hypostatique. Mais vous soulignez à juste titre que le salut est venu une fois pour toutes, c'est la lettre aux Hébreux, est venu dans le monde une fois pour toutes, il est irrévocablement acquis, ça c'est le texte de Jean Danielou que je citais tout à l'heure, mais il n'est pas assuré pour autant, j'entends assuré pour tous les hommes de l'histoire venue et à venir. Et vous disiez, l'homme n'est sauvé que s'il veut. Et ça, il me semble, c'est un point sur lequel je ne serais pas forcément totalement en accord avec vous, parce que cette question du vouloir, justement, qui est une question très débattue pour Augustin, quel est le commencement de la foi, dit Augustin. Et c'est la phrase de l'Épître aux Romains que je citais en terminant, il ne s'agit pas de vouloir ou de courir, mais que Dieu fasse miséricorde. Donc pour Augustin, il y a vraiment une notion de l'antécédence, de l'antériorité du don de Dieu, de la grâce, de la miséricorde sur la volonté de l'homme. Et c'est ce don de la grâce qui libère la volonté pour qu'elle puisse adhérer au salut qui lui est proposé. Donc dans ce travail de libération de la volonté, qui est déjà donné, mais toujours, je dirais plutôt que c'est l'homme est sauvé s'il consent, plutôt que s'il veut, s'il consent au salut qui lui est donné en Jésus-Christ. Et c'est là que se pose la question d'accepter le don qui est fait par Dieu, de le reconnaître, d'en prendre conscience. Et il me semble que la réponse que je ferai, et j'aborde pas la manière de Thomas de répondre à cette question, mais je reste avec saint Augustin. La réponse à cette question, c'est, comme dit Augustin, mon bien, c'est d'adhérer à Dieu. Et quand il s'agit du Christ, mon bien, c'est d'imiter le Christ, c'est de suivre le Christ, c'est de laisser le Christ habiter en moi avec toute la plénitude de la divinité. Donc, il me semble que c'est ce que je pourrait répondre à vos suggestions.
Mettez votre micro, s'il vous plaît.
Je disais que la réponse de Madame Dieuleveux répond tout à fait à ce que j'avais pas très bien expliqué. Et en fait, vous êtes plus proche de la thèse de Saint Thomas d'Aquin qui unit les deux natures plutôt que de les séparer. Merci.
Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais me permettre d'en poser une moi-même. Je me donne la parole, si je puis dire. Je trouve qu'avec cet exposé, nous sommes vraiment allés au fond. Enfin, en tout cas, nous avons fait pas mal de pas vers le fond de la question de la différence, du conflit, comme on voudra dire, entre le christianisme et ce qui l'a précédé, ce que l'on appelle, d'un mot que je n'aime pas, le paganisme. Je ne l'aime pas parce que c'est un mot polémique. Bon. Disons que la vision du monde, la vision des choses, la vision du divin qui a précédé le christianisme, vision qui était elle-même extrêmement diverse, qu'on peut pas nécessairement mettre dans le même panier, la religiosité des derniers néoplatoniciens et la piété populaire ou les cultes à mystère, enfin, tout ceci est très varié. Mais, puisque vous avez donné la parole à ce qu'il y a sans doute de plus profond, enfin, l'adjectif vaut ce qu'il vaut, dans la pensée pré-chrétienne, à savoir la tragédie, vous avez eu tout à fait raison de nous parler d'Antigone comme d'un drame du salut. Je voudrais vous demander ce qu'il en est de la notion de salut dans un monde ou chez des auteurs pour lesquels le bien suprême est de toute façon inaccessible. Je m'explique. On a longtemps cru, si je puis dire, à un paganisme gay, à un monde pré-chrétien décomplexé. Enfin bon, c'est une représentation qui fait encore fureur, non pas chez les gens qui lisent les textes, mais disons chez les gens qui travaillent de seconde, voire de troisième, si ce n'est de énième main. Et cette façon de voir, eh bien, a reçu un coup qui me semble mortel en ce qui me concerne, en 1835, avec la thèse latine de Ernst von Lasso, De Dominatu Mortis Apuduet Eris. Lasso, c'est dans ce petit travail, s'opposait diamétralement, disons, à l'hellénisme de Weimar, ou à celui de Winckelmann, qui voyait justement le paganisme sans peine, si je puis parodier la méthode assimile. Et il s'est contenté, d'une certaine manière, de rassembler les passages de la littérature grecque la plus classique et la plus digne, donc en particulier la tragédie, dans lesquels il est dit que ce qu'il y a de mieux, c'est de ne pas être né. Ce sont les derniers mots de la dernière tragédie de Sophocle, le dit pas colonne, « Me funai ton hapanta nika logon », ce que je traduirais d'une manière un peu culottée, mais je crois d'une certaine manière très exacte, « ne pas être né bat tous les records ». Et ce qui n'est qu'un second best, ou plutôt un deuteros plus pour être un petit peu plus grec, c'est de mourir le plus tôt possible. Alors, dans cette perspective, évidemment, l'idée de salut perd son sens, puisque ce qu'il y aurait de meilleur, puisque nous sommes au monde, puisque nous vivons, nous l'avons déjà raté, de toute façon. Nous avons manqué le coche dès le début. Alors, est-ce que l'on peut penser quelque chose qui mériterait de façon un peu sérieuse le nom de salut, si l'on en reste à une telle hypothèse. L'histoire là, du fait de ne pas être né qui serait le meilleur est attestée aussi chez Hérodote, que vous avez cité. Hein, c'est l'histoire de Cléobis et Biton qui, pour avoir rendu un service au dieu Apollon, je crois, enfin, je ne sais plus de quel dieu il s'agit, voient leur mère prier le dieu en question de leur accorder ce qu'il y a de mieux.
L'amour.
Donc ils s'endorment et ne se réveillent pas. Bon, alors, attendez, pendant que j'y suis, et que je me suis donné la parole, non sans m'être remercié, il est intéressant qu'à propos de l'opposition entre le salut collectif et le salut personnel, il y a quelqu'un qui a montré de façon, à mon avis, lumineuse les aspects sociaux du dogme, c'est le prédécesseur de Jacques de La Rosière sur son fauteuil, à savoir le cardinal Henri de Lubac, hein, dans le grand livre « Catholicisme » qui date de 37, voilà. Bien, merci donc. L'observation était un petit fait, mais la question reste entière. Est-ce qu'on peut avoir un salut dans une perspective finalement radicalement pessimiste ? Terme anachronique et un peu bête.
Merci beaucoup. C'est très stimulant, tout ce que vous venez d'évoquer. Cette perspective pessimiste, effectivement, que j'évoquais en parlant du mois de novembre, des feuilles qui tombent, de la pluie glaçante, des visites de cimetières, etc. Comment le salut vient se placer dans ce contexte-là ? Et même quand on regarde la période qui s'ouvre, qui est chez les chrétiens une période extrêmement joyeuse, bien que les ornements liturgiques soient violets, la période de l'Avent, où donc on se prépare à la venue du Christ, la venue du Christ qui, on le sait, est triple. Le Christ est venu dans l'incarnation, donc le Christ s'est fait chair, il est né à Bethléem. Le Christ vient, il vient chaque jour, à chaque instant, et il vient dans l'Eucharistie où il se rend présent. Et le Christ viendra dans sa gloire lors de la parousie. Donc ça, c'est ce que représente l'Avent théoriquement pour les chrétiens. Et on va voir que les avenues de la ville dans laquelle nous sommes vont se remplir de vitrines, de paillettes, d'éclairages, et que ce sera la course pour les cadeaux de Noël et la dinde et le foie gras, s'il en reste encore. Et on se dit, est-ce que c'est cela, le salut, ou bien cette figure un peu dégradée qui est la quête du bonheur, qui se présente à nous ? Donc il y a vraiment pour notre monde une question, la question que vous posez est... elle est urgente et elle est décisive. Alors, pour revenir d'un peu plus près à la manière dont vous l'avez formulée, une des premières choses qui m'est venue à l'esprit en vous entendant, c'est cette phrase de Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe où il raconte sa naissance dans la chambre de sa mère et il dit « Ma mère m'infligea la vie ». Et pourtant, ce n'est pas le dernier des auteurs chrétiens, Chateaubriand. Donc on peut écrire, en se retournant sur sa vie, « Ma mère m'infligea la vie ». Est-ce que la vie est un fardeau, est une chose que l'on reçoit comme trop lourde et comme déjà perdue avant même d'être commencée ? Et cette vie qui serait un fardeau, eh bien, c'est aussi la question qui se profile derrière des sujets de société très importants, comme... les enfants non nés, cette expression les enfants non nés, c'est une expression de Luc Boltanski qui avait trouvé cette formule pour parler des tout débuts de la vie et du terme qui y est parfois mis. Et il me semble que ce ne pas vouloir être né, qui rejoint cette expression de Solon, nul vivant n'est un homme heureux. Mais il faudrait vraiment y réfléchir plus que je ne peux le faire sur le vif. Ça nous amène à toutes les questions liées à la décroissance, liées à l'anthropocène, liées à des choses plus anciennes comme le malthusianisme. Est-ce que l'homme, finalement, est superfétatoire sur cette terre ? Est-ce que la vie ne peut pas conduire vers un accomplissement, même si elle est courte, même si elle est écourtée, même si elle est fragile, même si elle est dans le handicap ? Donc, quelle est la valeur intrinsèque de la vie. Qu'est-ce que ça signifie, veut dire au monde? Est-ce que c'est un don, une grâce, ou bien est-ce que c'est un fardeau dont il faudrait se défaire aussi vite que possible?
Je vous remercie. Il ne semble pas qu'il y ait d'autres questions. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier. Oui, c'est ça.